France Inter, il est encore 7h30. Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une révolution en marche. Pour la première fois, un homme tétraplégique a pu commander un robot avec son cerveau. Un exosquelette qui lui a permis de faire à nouveau quelques pas. Une première mondiale que l'on doit à des chercheurs français. Précision à suivre. Un témoignage exclusif dans ce journal, celui d'un CRS envoyé pendant 8 heures sur le site en feu de Lubrizol, avec pour seule protection un simple masque jetable. À suivre également les écoles privées sous contrat qui demandent leur dû aux communes après la réforme Blanquer sur l'instruction obligatoire des 3 ans. Une journée sous tension en Égypte avec de nouveaux appels à manifester. Reportage sur place. Et puis c'est le buzz théâtral de la rentrée. Joy Starr et Béatrice Dalle dans Elephant Man, un spectacle qui ne remplit pas sa promesse selon notre critique Stéphane Capron.
L'invité d'Ali Badou donc à 7h50 dans 20 minutes. Aujourd'hui le haut fonctionnaire David Jaiz qui publie Slow Democracy. Comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main. C'est aux éditions Alary.
France Inter.
Et c'est l'histoire, Sébastien, d'un jeune homme paralysé des 4 membres, mais qui aujourd'hui peut espérer remarcher grâce à un système unique au monde.
Un exosquelette, une sorte d'armure robotisée commandée par la pensée. C'est un centre de recherche français, le Clinatech à Grenoble, qui est à l'origine de ce prototype révolutionnaire. Il a fallu 10 années de travail sur les liens entre le cerveau et la machine, puis 2 années de tests. Et aujourd'hui, c'est une réussite. La revue scientifique de Lancet va enfin publier les résultats des essais cliniques. Un espoir immense pour les personnes handicapées touchées à la moelle épinière, comme Thibault, victime d'une chute il y a 4 ans et qui peut maintenant se déplacer et bouger ses mains. Les précisions de Véronique Puyot.
Thibault, 28 ans, est tétraplégique. En juin 2017, 2 petites plaques de quelques centimètres carrés bourrées d'électronique ont été implantées sur les 2 hémisphères de son cerveau, juste sous la boîte crânienne, sans qu'aucun fil ne dépasse, une matrice qui n'a pas été rejetée par son corps. Le jeune homme s'est ensuite entraîné durant plus de 2 ans pour contrôler l'exosquelette, une sorte d'armure qui lui permet de se tenir debout. Pour faire simple, quand il pense le mouvement, son cerveau émet des ondes électriques. Elles sont captées par la neuroprothèse qui les analyse et qui transmet ses signaux à l'exosquelette qui lui permet de bouger ses membres paralysés. Le patient a ainsi été filmé en train de faire quelques pas et de porter un verre à sa bouche. Bien sûr, les gestes ne sont pas fluides, mais c'est une première mondiale. Pour l'équipe de Clinatech qui travaille sur ce dispositif, c'est une avancée importante vers l'autonomie pour les personnes handicapées. L'ambition à terme est de décliner cette interface cerveau-machine pour le pilotage, par exemple, d'un fauteuil roulant ou d'un bras articulé.
Véronique Puyot de France Bleu Isère.
Ils étaient les premiers, Sébastien. Il est 7h34, les premiers sur l'incendie Lubrizol il y a une semaine.
Les pompiers que l'on a entendus hier dans le journal de 8h, mais aussi les forces de l'ordre, des CRS en première ligne au moment du drame, des hommes qui aujourd'hui sont très inquiets sur leur santé. Notre reporter Thibault Lefebvre a pu rencontrer l'un d'entre eux qui, malgré son devoir de réserve, a accepté de parler. Ce policier a passé plus de 8 heures sur le site de l'usine en feu. Témoignage exclusif.
Philippe arrive avec sa compagnie 14 heures après le début de l'incendie. Il est alors chargé de surveiller un des accès à la zone d'intervention. Un barrage situé à une centaine de mètres du brasier. Il porte alors un simple masque filtrant, un masque de chirurgien de type FFP2.
Les fonctionnaires étaient à côté de pompiers qui étaient autour de l'usine, qui ont dit que votre masque ça sert à rien, c'est comme si vous aviez rien. Ça fait assez peur parce qu'on est parti sans aucun moyen de protection. Il existe dans la police des tenues NRBC qui protègent contre... les risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. Qui n'a pas voulu qu'on ait ces tenues? C'est de la négligence et de l'incompétence, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi.
L'incendie tout juste éteint, Philippe reste pendant 8 heures au contact de l'épais nuage noir. Plus d'une semaine après la catastrophe, il ressent encore des symptômes.
J'ai encore des maux de tête persistants au niveau respiratoire. C'est plus comme avant, quoi. J'ai fait et je vais faire des analyses dans le privé pour être sûr que je ne suis pas impacté par ces gaz et fumées toxiques que j'ai respirées. Si au bout de toutes mes analyses, je vois qu'il y a eu un impact direct sur mon état de santé, évidemment, je me joindrai à une plainte collective contre le ministère de l'Intérieur, ça c'est certain.
Le ministère de l'Intérieur a engagé un suivi médical. Une première prise de sang a été proposée cette semaine aux policiers volontaires.
Un reportage à Rouen de Thibault Lefebvre. Bataille d'experts autour de la possible contamination de la gare d'Austerlitz à Paris. Une contamination au plomb. En début de semaine, une entreprise chargée du déplombage du site dénonçait des taux alarmants, notamment dans les espaces publics. Mais la SNCF vient hier soir de sortir ses propres analyses. Il n'y a pas de pollution dans la gare, selon le groupe ferroviaire. S'agit-il d'un coup de folie individuel ou d'un acte terroriste prémédité? Les motivations du tueur de la préfecture de police de Paris restent ce matin encore inconnues. L'assaillant avait 45 ans, né en Martinique, agent administratif. Depuis 16 ans, la préfecture, atteint de surdité, est convertie à l'islam il y a un an et demi. Son domicile de Gonesse a été perquisitionné. Enfin, sa femme a été mise en garde à vue. L'enseignement catholique dans l'attente de 150 millions d'euros de la part des mairies. C'est une conséquence de la loi pour une école de la confiance de Jean-Michel Blanquer. L'instruction scolaire est en effet désormais obligatoire dès 3 ans dans toutes les écoles, y compris privées. Les communes, si elles ne le faisaient pas déjà, vont donc devoir verser une contribution aux écoles maternelles privées sous contrat, Sonia Princey.
L'enseignement catholique n'a plus qu'à demander son dû aux communes. Le forfait payé par les municipalités est très variable d'une ville à l'autre en fonction de ce qu'elle investit dans l'école, la mise à disposition de cars scolaires par exemple pour des sorties. Cette somme est versée localement à des OGEC, des organismes de gestion de l'enseignement catholique, qui en disposent librement. Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, a conscience que cela pourra prendre du temps.
On n'est pas là pour mettre les communes en difficulté. On ne va pas mettre le couteau sous la gorge de la commune en disant « vous payez dès maintenant, puisque depuis le 1er septembre, vous devez nous payer ». En revanche, on va négocier, discuter, échanger, mais ça peut se faire que localement, de façon à trouver le meilleur compromis possible pour étaler, je dirais, cette hausse du forfait. Donc ça peut s'étaler sur 2-3 ans s'il le faut.
Avec cet argent, les écoles privées pourraient diminuer les contributions des familles, entretenir le bâti. Mais du côté des communes, la pilule passe mal. Agnès Lebrun est vice-présidente de l'Association des maires de France.
Lorsque les collectivités vont monter leur budget, suivant évidemment la taille de la collectivité, suivant le nombre d'écoles privées dans leur commune, parce que c'est très variable, il y a des départements où il y a peu d'écoles privées, il y en a d'autres où il y en a beaucoup au contraire, il y a là les communes risquent fort d'être très impactées. Par exemple, une ville comme Brest doit trouver dans son budget 1,3 million.
La pression sur les maires est très forte et le sujet sensible à quelques mois des élections municipales.
Sonia Princey, spécialiste éducation à France Inter. Une grave intoxication hier lors d'une course à pied organisée par un collège dans le Jura. Le collège de Morez, 16 élèves ont été pris de maux de tête et de douleurs au ventre. Une jeune fille de 14 ans dont le pronostic vital était engagé va mieux ce matin. Reste à savoir ce qui s'est passé. Un stand de rafraîchissement serait en cause. L'épidémie américaine de maladies pulmonaires liées au vapotage ne cesse de s'aggraver. Le bilan est passé à 18 morts et 1080 malades. Les autorités américaines déconseillent officiellement le vapotage, surtout s'il s'agit de produits au cannabis, mais n'ont aucune certitude sur l'origine de ces décès.
Il est 7h39, direction le Caire, Sébastien, la capitale égyptienne sous haute tension, à quelques heures de nouvelles manifestations.
Il y a 2 semaines, plusieurs milliers d'Égyptiens étaient descendus dans les rues pour dénoncer la situation économique et sociale très difficile. Aujourd'hui, les partisans du général Sissi sont appelés à se rassembler pour, au contraire, défendre la politique du pouvoir, une politique de plus en plus contestée. La situation économique est donc désastreuse. En 2016, le FMI a débloqué un prêt de 3 ans en faveur de l'Égypte, mais en échange de réformes draconiennes qui plombent le quotidien des Égyptiens. Au Caire, le reportage de Frédéric Mettezo.
Création d'une TVA, dévaluation de la monnaie, hausse des prix, le niveau de vie des Égyptiens s'effondre. Raef travaille dans le bâtiment 10 heures par jour avec juste 2 week-ends par mois. Sa femme ne travaille pas, il élève 2 filles et héberge sa mère. La moitié de son salaire passe dans son logement.
Tout augmente, les loyers, l'essence, les transports, ça devient très compliqué. À mon âge, je devrais pouvoir m'acheter un appartement, mais je ne sais pas comment quand tout devient si cher.
Pendant longtemps, Georges a fait partie de la classe moyenne aisée. Ce dirigeant d'entreprise gagne 5 fois plus que Raef l'ouvrier, mais lui aussi est dépassé.
Un simple exemple, j'ai une voiture que j'utilisais pour aller au travail et mes filles allaient à l'école en bus, mais le prix du transport scolaire a triplé. Donc je ne peux plus payer et j'ai laissé la voiture à ma femme pour qu'elle conduise les filles.
Mais le gouvernement et les milieux d'affaires s'accrochent aux chiffres de la croissance en hausse à plus de 5%. Salah est cadre dans une banque. Il y a des problèmes, bien sûr, mais il y a eu des progrès. Une révolution, un mouvement social nous ferait reculer. Nous avons juste besoin de patience, de solidarité et de soutenir les grands projets du gouvernement. Un tiers des Égyptiens vivent dans la grande pauvreté. Depuis la révolution de 2011, l'Égypte a gagné 14 millions d'habitants. Le Caire, Frédéric Mettezo, France Inter.
Une nouvelle provocation de Donald Trump hier dans l'affaire de la procédure de destitution entamée contre lui. Le président américain est déjà soupçonné d'avoir utilisé les moyens de l'État pour demander à l'Ukraine d'enquêter sur son rival à la présidentielle de 2020. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Donald Trump a ouvertement suggéré hier que la Chine également enquête sur Joe Biden et son fils, que le milliardaire accuse, je cite, d'avoir arnaqué la Chine et l'Ukraine. Le PDG d'Apple s'oppose à une taxe GAFA seulement française. Tim Cook, c'est à lire dans Les Échos ce matin, souhaite que cette taxation des multinationales soit, je cite, tranchée au niveau de l'OCDE.
Et on termine 7h41 avec une pièce de théâtre qui fait beaucoup causer, Sébastien. Elephant Man avec Béatrice Dalle et Joe Star.
Deux monstres que l'on a reçus ici à Inter et réunis sur scène pour la première fois dans une adaptation de cette histoire vraie. Un homme difforme devenu phénomène de foire. Hier, c'était la première de la mise en scène de David Bobet aux Folies Bergères. Stéphane Capron était dans la salle et il n'a pas été convaincu.
Voici l'homme éléphant. Et pour le prix qu'il faut, vous allez voir quelque chose que vous ne reverrez plus jamais de votre vie.
Ce que l'on ne voit pas dans ce spectacle, c'est l'Elephant Man tel que l'on pouvait s'y attendre. Joe Star apparaît sans maquillage, sans difformité. Il n'a pas l'allure de l'homme meurtri dans son corps d'animal. Seule son image projetée sur grand écran est déformée. David Bobet, le metteur en scène, souhaite avant tout poser la question du rapport à la beauté. Qui est vraiment le monstre, le public voyeur ou l'homme défiguré? L'événement de ce spectacle, c'est bien sûr la rencontre au sommet pour la première fois sur scène entre Béatrice Dalle et Joe Star, entre la belle comédienne Madame Kendall qui tombe amoureuse de la bête John Merrick.
Mon amour, je te vois tel que tu es, John, et non pas la calamité qui t'a frappé, comme elle aurait pu frapper n'importe lequel d'entre nous.
Madame Kendall, je vous aime!
Mais cet Elephant Man ne tient pas ses promesses, cette super production est d'un ennui profond. La faute en revient surtout à l'adaptation et au texte qui sonne creux. Les comédiens n'arrivent pas à combler le vide d'un spectacle de 3 heures beaucoup trop long qui s'essouffle très vite et qui aurait mérité d'être resserré.
Voilà, Elephant Man avec Joe Star et Béatrice Dalle, c'est jusqu'au 20 octobre aux Folies Bergères, un spectacle France Inter malgré tout.
Merci Sébastien Logénie. Nouveau point route, Laurine Benjebria, c'est très compliqué Laurine en ce moment au sud de Paris.
Oui, le trafic est chargé sur la 86 intérieure entre Créteil, Pompadour et Fresnes, puis sur l'A6, vous êtes pare-choc contre pare-choc des Ivriers jusqu'au périphérique via l'A6A, comptez une vingtaine de minutes entre Vissou et la Porte d'Orléans. Une fois sur le périphérique intérieur, vous avez le pied sur le frein entre la Porte d'Orléans et la Porte d'Auteuil. Des perturbations, vous en rencontrez aussi en région toulousaine. À la suite d'un accident sur l'A62 au niveau de Gabardy, vous êtes ralenti sur l'A68 et le périphérique toulousain.